RFI 7h30, à Paris 5h30 en temps universel. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le procès de Charles Onana à la une de ce journal, les débats sont terminés.
Le journaliste et auteur franco-camerounais accusé de contestation du génocide des Tutsis au Rwanda en 94. Lui s'en défend, il évoque même une cabale politique. Mohamed VI affiche devant la représentation nationale marocaine l'amitié retrouvée avec la France. Le souverain salue publiquement la décision de Paris de s'aligner sur le plan de Rabat pour le Sahara occidental. 9 Nigériens déchus de leur nationalité, à titre provisoire certes, mais déjà des froncements de sourcils chez les juristes. Cette décision rendrait certaines personnes apatrides et c'est contraire aux engagements internationaux de Niamey. Les plus hauts dirigeants de l'Union africaine en Libye rencontrent avec l'Ouest hier, avec l'Est aujourd'hui, pour relancer un dialogue profondément ensablé. Et puis reportage à Arusha aussi dans quelques minutes, avec le Climate Justice Camp, 300 jeunes venus mutualiser leurs combats et leurs idées à un mois de la COP29 de l'ONU où ils espèrent bien se faire entendre. La fin des débats hier soir donc au tribunal correctionnel de Paris au procès de Charles Onana. Le journaliste franco-camerounais est poursuivi pour contestation de crimes de génocide. En l'occurrence, celui perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Plusieurs organisations avaient porté plainte après la parution de son livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » il y a 5 ans. La procureure l'accuse d'avoir clairement dépassé les limites de la liberté d'expression dans cet ouvrage en minorant et en banalisant l'existence de ce génocide. Lui-même s'en défend et plaide la relaxe. Florence Maurice.
Selon la procureure, plusieurs extraits du livre de Charles Onana constituent bien une négation abrupte, frontale et sans aucun détour du génocide. L'accusé, lui, s'en est défendu jusqu'au bout, y compris à la sortie de l'audience devant ses partisans.
Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. La destruction de l'enquête du juge Bruguière, il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas.
Pour Maître Baudouin, avocat de la FIDH, ces propos sont une manœuvre pour détourner l'attention du réel objet du procès.
Charles Onana a constamment essayé de ne pas évoquer la réalité des reproches qui lui sont faits dans les propos tenus, c'est-à-dire la négation du génocide. En revanche, il nous fait reproche de ne pas tenir compte des violations des droits de l'homme commises par le FPR et le régime de Kagame. Bien évidemment, nous combattons les violations des droits de l'homme massives commises par ce régime aujourd'hui, mais simplement, ce n'est pas le même sujet.
La décision des juges est attendue le 9 décembre prochain.
Florence Maurice, la procureure, n'a pas suggéré de peine dans son réquisitoire. Elle laisse cette question à l'appréciation de la Cour en cas de condamnation de Charles Onana. Les observateurs de l'UE critiquent sur l'équité du scrutin au Mozambique. Il y a eu un net favoritisme pour le parti au pouvoir lors de la campagne. C'est ce qu'a dit la mission d'observation de l'Union européenne 2 jours après le scrutin, notamment présidentiel. Le Frelimo a bénéficié d'une utilisation indue des ressources de l'État, assure la chef de cette mission lors d'une conférence de presse à Maputo. L'opposant Venancio Mondlane avait dénoncé c'est dès mercredi, jour du vote, des irrégularités du parti au pouvoir depuis un demi-siècle. Les résultats de ce triple scrutin sont attendus d'ici 2 semaines. Le roi du Maroc marque ouvertement le réchauffement des relations avec la France. Mohamed VI présidait hier l'ouverture de la session parlementaire d'automne et son discours inaugural a été notamment l'occasion d'afficher publiquement l'entente retrouvée avec Paris. Il y a 4 mois, le président Macron avait annoncé une évolution majeure de la diplomatie française sur la question du Sahara occidental. Il avait exposé le soutien de Paris au plan d'autonomie proposé par Rabat, un geste vivement apprécié par le souverain Mathias Reynal.
Instant solennel, en tenue traditionnelle, face à une assistance silencieuse, le souverain marocain annonçant en préambule l'objectif de sa prise de parole. Il va évoquer les derniers développements de l'affaire du Sahara marocain, dit-il.
J'exprime en mon nom personnel et au nom du peuple marocain mes plus vifs remerciements et ma profonde gratitude à la France et à son Excellence le Président Emmanuel Macron pour ce soutien franc à la marocanité du Sahara.
Applaudissements des parlementaires. Dans une lettre envoyée au souverain au mois de juillet, le président français a apporté l'appui de la France au plan d'autonomie proposé par Rabat.
le Sahara qui est, insiste le souverain, la première cause nationale des Marocains.
La position française s'inscrit dans l'esprit de la dynamique positive que connaît l'affaire du Sahara marocain. Nous avons réussi à obtenir la reconnaissance de pays influents, également membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme les États-Unis et la France.
À la faveur du récent réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays, Emmanuel Macron effectuera une visite d'État au Maroc à la fin du mois. Mathias Reynal, de retour de Rabat, RFI.
La déchéance de nationalité prononcée contre 9 ressortissants nigériens soulève déjà plusieurs questions et réactions. Avant-hier soir, le général Tchiani, en ce moment à la tête du Niger, signait un décret par lequel 9 anciens responsables du régime de Mohamed Bazoum perdaient leur nationalité nigérienne, à titre provisoire en tout cas. Cela fait suite à leur inscription sur un fichier qui recense les responsables suspectés d'actes terroristes ou d'atteinte aux intérêts de la nation. Mais cette décision soulève notamment un problème de droit au regard des textes internationaux, puisque Magali Lagrange, elle reviendrait à créer des apatrides.
Tout individu a droit à une nationalité, extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, le Niger a ratifié les textes internationaux qui interdisent de rendre une personne apatride, explique un juriste. Comment donc pourrait-on être provisoirement déchu de sa nationalité nigérienne quand on n'a pas d'autre nationalité, s'interroge-t-il. Une déchéance de nationalité provisoire, précise le document du gouvernement nigérien, suite à l'inscription des 9 individus concernés sur un fichier de personnes présumées impliquées dans des actes de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts de la nation. La mesure deviendrait définitive en cas de condamnation à une peine d'au moins 5 ans de prison. Selon l'une des personnes concernées par la décision du CNSP, cette déchéance provisoire de nationalité ne fait que formaliser la situation. Nous avions déjà perdu notre pays et notre nationalité puisque nous ne pouvons ni rentrer ni obtenir le moindre document administratif, commente-t-il. De l'avis de plusieurs observateurs, c'est une façon de faire taire toute voix dissidente. L'un d'eux voit dans ce décret une mesure symbolique pour discréditer les personnes concernées. Selon lui, les voix discordantes ne sont plus vues comme des opposants politiques, mais comme des traîtres à la patrie.
Magali Lagrange, l'Union africaine tente une fois encore de relancer ses bons offices de médiation dans l'imbroglio libyen. Elle dépêche sur place ses plus hauts représentants, en l'occurrence son président en exercice, Mohamed Oulcher Razouani, chef de l'État mauritanien, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission, et Jean-Claude Gakosso, chef de la diplomatie congolaise. On rappelle que le président Sassou Nguesso dirige le groupe de haut niveau de l'UA sur la Libye. Un aréopage à Tripoli hier, à Benghazi aujourd'hui, pour rencontrer donc les camps rivaux de l'Ouest et de l'Est. L'un des leitmotivs répétés depuis plus de 10 ans par nombre de dirigeants africains consiste à dire que l'instabilité libyenne est la cause de celle qui ébranle profondément le Sahel. Est-ce que c'est encore vrai en 2024? Le chercheur Jalel Archaoui est catégorique. Ces imprécations médiatiques ne correspondent plus à la réalité des faits.
J'observe beaucoup le sud libyen. Le sud libyen est en train de se détériorer d'une manière lente. C'est à cause de l'Afrique subsaharienne. Donc cette narration qui est statique, qui n'a pas changé, qui n'a pas été mise à jour, où l'Afrique subsaharienne se plaint de la déstabilisation occidentale de Tripoli, c'est pas quelque chose qui marche d'une manière omniprésente à travers le temps. L'histoire bouge. En ce moment, par exemple, l'extrémisme islamique est très très fort au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et il est quasiment absent en Libye. Et si la situation se dégrade en Libye dans les mois à venir, ce sera à cause de l'Afrique subsaharienne. Donc le fait que l'Occident est toujours le méchant qui a provoqué une déstabilisation qui, d'une manière constante, va toujours du nord vers le sud, c'est quelque chose de faux quand on observe les faits d'une manière objective. Par contre, au niveau de la narration politique, ce storytelling n'a jamais changé dans la bouche des dirigeants subsahariens depuis 2011. C'est une espèce de disque rayé qui ne tient pas compte des faits géographiques ou des faits politiques sur le terrain.
Jalel Archaoui, chercheur au Royal United Services Institute, invité hier de RFI Midi. Vous pouvez réécouter son entretien complet sur notre application RFI Pure Radio. Les associations comoriennes de défense des droits des femmes inquiètent après les réquisitions dans un procès pour homosexualité. Le tribunal correctionnel de Moroni réclame 2 ans de prison, dont un ferme, contre 2 femmes accusées, je cite, de faits à caractère sexuel contraire aux bonnes mœurs et contre nature. Ces 2 femmes sont incarcérées déjà depuis 5 mois. Laissons les gens vivre leur intimité comme ils l'entendent, réagit déjà l'organisation IMA, en pointe dans le combat pour les droits des femmes, combat qui devrait se porter au contraire contre les violences que subissent tous les jours les Comoriennes. Arfan Salim Abdou est une militante de cette organisation.
Le jugement de ces deux jeunes femmes me paraît quand même assez préoccupant, parce que chaque individu a droit à la dignité et à la liberté de vivre sa vie privée sans craindre d'être jugé ou persécuté. La vie intime de deux adultes ne devrait pas devenir une affaire judiciaire, surtout lorsque tant de victimes de crimes graves attendent que justice leur soit rendue. Les priorités de notre justice doivent être recentrées sur la lutte contre les violences qui déstabilisent notre pays, comme les assassinats et les viols ou le non-respect des droits humains. La protection des droits humains et la sécurité des citoyens doivent primer sur toute autre considération. Il est temps de garantir que notre justice serve à protéger les citoyens contre les véritables menaces plutôt que de s'immiscer dans la vie privée de personnes qui ne font de mal à personne.
La militante comorienne Arfan Salim Abdou avec Abdallah Mzembaba. Le verdict de ces deux femmes est attendu dans un mois. Nous sommes à quelques semaines, enfin, de la COP29 et à un mois de ce rendez-vous à Bakou. Un sommet de jeunes s'est tenu en Tanzanie pour mutualiser les luttes et reprendre un peu confiance. Nous sommes à Arusha, dans le nord du pays, au Climate Justice Camp, le camp pour la justice climatique. Le nom parle de lui-même, plus de 300 jeunes venus des pays dits du sud global, ceux qui n'ont rien demandé et qui reçoivent en avant-première les effets accrus du réchauffement climatique provoqué quasi exclusivement par les pays riches. L'idée de ce camp étant notamment de se trouver des chevaux de bataille communs à faire entendre dans un mois à la COP de Bakou. Reportage Elodie Goulesque.
C'est à quelques kilomètres d'Arusha, au milieu d'une végétation luxuriante où des singes sautent d'arbre en arbre, que Méralné, originaire de l'île de Bonaire dans les Caraïbes, est en train de peindre. Une façon pour cet activiste du climat de décompresser.
Quand vous êtes activiste et que vous êtes investi dans la justice climatique et que vous vous battez, ça peut parfois être vraiment démoralisant.
Un espace de bien-être dédié aux plus de 300 participants du Climate Justice Camp. Leur point commun, tous sont des jeunes venus partager l'histoire de leur vie, souvent brutalement troublée par les effets du réchauffement climatique. C'est le cas de Varani Sese, venu des îles Fidji et qui témoigne la gorge serrée.
Notre île est littéralement en train de couler. C'est catastrophique, parce que pour nous, nos océans, nos terres, ce ne sont pas que des choses physiques, c'est aussi spirituel et culturel.
Le camp pour la justice climatique en est à sa troisième édition. Le but, selon l'un de ses fondateurs, Agustin Maggio, est de rassembler les jeunes les plus impactés par le changement climatique.
Nous essayons de créer beaucoup d'espace pour que tout le monde s'écoute et crée des liens forts, pour qu'ils apprennent les uns des autres et qu'ils agissent ensemble.
Prochaine étape, la COP29 en Azerbaïdjan, où ces jeunes qui n'ont d'autre choix que de lutter tenteront de faire entendre leur voix. Elodie Goulesque, Arusha, RFI.
À Arusha et sur RFI, il est 8h43. Julien Coquel-Rohem, c'est à vous.
Merci Edouard Dupénoët.